Verisure, tellement plus qu'une alarme.
J'attends mes vacances toute l'année. Pas question de les gâcher avec un cambriolage.
L'alarme Verisure détecte les intrus avant qu'ils ne pénètrent dans votre domicile et les agents préviennent les forces de l'ordre. Rendez-vous sur verisure.fr pour profiter de moins 50% sur nos packs. Offre soumise à condition. Un service opéré par Verisure, société agréée CNAPS.
Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Martin, on commence avec la réponse du jour.
Celle de Jean-Luc Mélenchon, appelé à s'exprimer sur certaines pancartes aperçues dans des manifestations anti-Rassemblement National, des pancartes affichant parfois des slogans anti-police, des slogans absurdes pour le patron de la France Insoumise, qui a ensuite invoqué le droit à l'humour. On a le droit de rigoler, non, a-t-il lancé sur le plateau d'M6 hier. Pas sur la mort des gens, pardon. Bien sûr que ce n'est pas drôle. Voilà ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon.
Il y a notamment une pancarte où il était inscrit un policier mort égale un électeur RN en moins.
Exactement.
Bon. Est-ce que... Je ne sais pas qui veut réagir.
Perico. Tout dépend de où on le regarde. Mais la pancarte serait... je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire. Un syndicaliste mort est un militant du
FLN.
Mais c'est ignoble. C'est ignoble, c'est compris. Ce n'est pas ça les valeurs de la gauche. Le mot Front Populaire, avec tout ce qu'il représente et toute la vénération que je lui porte, ne peut pas contenir des propos de ce genre. Donc, il faut pas dire en rigoler. Il faut au moins le RN, quand il y en a qui dit une monstruosité comme le député du Loir-et-Cher, ben il sanctionne, qu'il le pense ou qu'il le pense pas sincèrement. Là, il peut pas se contenter de dire c'est l'humour.
Non, alors,
il doit dire c'est inadmissible. Mais prenez même la mort d'un être humain, alors un flic. Mais dire quelqu'un qui meurt, quel qu'il soit, c'est un électeur du RN en moins, les électeurs du RN, ça nous fait mal. C'est le peuple français qui décide de son avenir souverainement. Ça veut dire quoi? Donc on est contre la démocratie, contre le suffrage universel, contre la liberté d'expression. Et on en est à tel point devenu fou sur ce débat qu'on dit que la mort d'un flic, c'est un électeur, c'est-à-dire un citoyen qui s'exprime en moins. Mais le fascisme, c'est pas ça. Ça, c'est au-delà du fascisme.
Lumière.
Ok, donc moi, alors sur le sujet de Jean-Luc Mélenchon, comme souvent, il aurait dû se taire. Enfin, vous m'avez souvent entendu dire.
Est-ce qu'il est obligé
sur ce plateau? Non, pas du tout. Mais vous savez, on est les premiers à gauche. Alors moi, j'ai du respect pour Jean-Luc Mélenchon pour ce qu'il a fait, pour le fait que par son action, il y a des millions de Français qui se sont rendus aux urnes qui ne le faisaient pas avant. Enfin, j'ai pas de sujet. Il a fait monter des gens en politique qui sont intéressants. Voilà. Après, je suis la première à dire que il s'exprime à tort et à travers, et qu'il c'est à nous qu'il fait du mal. C'est à son propre camp qu'il fait du mal.
Est-ce que plus que jamais, donc, aujourd'hui, justement, voilà, on n'aurait pas besoin d'apaisement?
Si, complètement. Moi, je suis en désaccord profond avec la stratégie de la conflictualité permanente de certaines personnes à la France Insoumise, dont Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'elle ne nous sert pas. Je pense qu'au-delà de gagner des voix, il faut qu'on œuvre à l'apaisement et à la réconciliation dans ce pays. Et en tenant ce genre de propos, il nous en éloigne. Voilà.
Et est-ce que tu partages l'idée de certains, la crainte, j'allais dire, de certains, parce que je parle de militants, ou plutôt pas de militants, mais de gens qui votent à gauche, la crainte que par ce type de propos, pas que celui-là, mais d'autres, par ce type de comportement, on mène un certain nombre de Français qui voteraient à droite, mais là, je parle de la droite traditionnelle.
Un centriste, bien sûr.
Je sais pas, un électeur LR, tu sais très bien qu'aujourd'hui, certains électeurs, LR ou même centristes, centre-droit, on va dire, vont voter.
Macronistes également.
Macronistes.
Oui, bien sûr.
Macronistes, centre-droit.
Mais je suis d'accord.
Vont voter RN dimanche.
Pour ne pas. Parce que
Jean-Luc
Mélenchon leur fait peur.
Effrayés.
Je sais.
Parce qu'il se passe.
Mais je sais, mais vous savez, moi, je dors 6 heures par nuit en ce moment, sinon je travaille sur cette élection. Donc je suis la première à savoir que quand il tient ce genre de propos, il travaille contre notre camp. Donc c'est un problème au-delà du fond. Qui est bien évidemment abject. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je crois qu'il faut qu'on convainque les gens qui votent pour le Front National avec nos arguments, et que bien évidemment, c'est complètement lunaire, c'est extrêmement choquant de souhaiter la mort d'un électeur RN, d'un policier. Enfin,
c'est pas souhaiter. Comme le dit Jean-Luc Mélenchon, c'est de l'humour.
Rapidement sur au moins le RN, il désavoue ses candidats. C'est pas vrai. Enfin, va faire la soupe, salope, Julien. Fancoul, candidat RN dans l'Aude. Hitler n'a peut-être pas assez tué de gitans. Gilles Bourdelais, candidat pardon, soutenu par le RN dans le Maine-et-Loire. L'IVG est un génocide de masse. Christophe Benz, candidat RN en Haute-Marne. Tous ces gens-là, ils sont encore investis par le Rassemblement National. Il y a 45 candidats du Rassemblement National qui ont eu des plaintes pour antisémitisme, mais ils sont encore candidats. Donc en fait, pardon, mais il y a un moment, là on parle d'une pancarte d'un mec qu'on ne connaît pas, qui est absolument pas en posture d'avoir...
Non, on parle des propos d'Éric Mélenchon qui est postulant premier ministre.
Voilà, et qui ne va pas être cadre, et de la réponse de ça de Jean-Luc Mélenchon, qui par ailleurs a quand même dit les mots abject, quand même dit absurde. Ouais. Enfin voilà, donc en fait, il n'a pas juste dit c'est génial, bien évidemment, on souhaite que les policiers meurent. Enfin, il faut se replacer dans le truc.
Il a dit que c'était d'humour.
Il a invoqué le droit à l'humour.
Et vous m'avez entendu dire que c'était un problème.
Il n'y a aucun doute sur
le voilà.
Moi, je trouve ça gravissime parce qu'on n'est pas face aux propos d'un obscur député, mais d'un type obscur qui postule à être Premier ministre demain. Et que
il
par
a
ailleurs.
Dit qu'il n'était pas candidat. Oui, il ne rejetait rien.
Alors, au cours de la même émission, il a dit faut pas m'exclure.
Non, mais c'est ce qu'il dit, je te dis. Il a dit qu'il n'était pas candidat, mais qu'il ne rejetait rien.
Et. Par ailleurs, moi, ce que je trouve très inquiétant, c'est qu'on se focalise sur le cas de Mélenchon, comme si Mélenchon était totalement extérieur à cette alliance, à ce nouveau Front populaire. Moi, j'entendais Rudy Manin ce matin réagir à ça, syndicaliste de l'Alliance Police, qui dit, mais en fait, nous, on sait très bien que ça traduit quand même un climat anti-flic au sein de cette coalition Front populaire, et on sait très bien que si demain, ils arrivent au pouvoir, ira...
au sein d'un certain nombre de membres de cette alliance.
Lui, il a dit, il y a un climat. Je reprends ses propos. Et il a dit, on sait très bien que si demain ils arrivent au pouvoir, on continuera évidemment à faire notre travail pour protéger les Français, mais on le fera en marchant sur des œufs, parce qu'on sait très bien que non seulement on ne sera jamais soutenu par notre hiérarchie, mais qu'en plus on les aura contre nous. Par ailleurs, je rappelle quand même que cette même coalition a investi dans la circonscription où Arnaud Beltrame a été tué par un terroriste islamiste, a investi Philippe Poutou, qui a sur ses affiches des armements de la police tue. Donc il y a vraiment un climat anti-flic qui est extrêmement préoccupant.
Le compte du jour, Martin.
Un compte TikTok qui est dans le viseur de la justice parce qu'il appartient à un détenu. Et oui, un détenu qui se filme depuis sa cellule, pose des questions à d'autres détenus, notamment un homme condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'une prostituée. Plusieurs dizaines de vidéos qui ont été vues par les 63 000 abonnés à ce compte. Une enquête est ouverte dans la Meuse pour introduction illicite d'objets en détention.
Perico, est-ce vraiment surprenant?
Ça fait partie, j'allais dire, des dérives de notre époque. Bon, le problème est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ça.
Bah, visiblement, ouais. Rien.
Ben, voilà.
Bah, en tout cas, on n'y arrive pas.
Ah non. Donc ça, c'est un vrai problème. Là, c'est un vrai problème, j'allais dire, de souveraineté, de liberté, et de capacité à pouvoir empêcher dans ce pays que des aberrations de ce genre puissent se déployer. Là, il y a un problème de légalité qui se pose. Et je pense qu'il faudra rapprocher la question, toute tendance politique confondue. Là, c'est...
Noumir.
Oui, je suis assez aligné.
Laurent.
Oui, moi, ce qui m'embête dans cette histoire, c'est qu'on a sévi contre lui parce que TikTok a un côté très symbolique. Mais quelques mois avant, on nous avait dit que qu'on allait renoncer dans les prisons à intervenir pour supprimer les téléphones portables qui servent aux trafiquants de drogue. Et là, c'est gravissime parce que on en a eu un exemple sous une forme évidemment hyper tragique avec le massacre des convoyeurs
des personnels pénitentiaires qui convoyaient Mohamed Amra et qui après on a découvert qui est toujours en fuite actuellement, et on a découvert par la suite que c'est notamment au cours des 6 derniers mois avant ce drame, il avait eu en sa possession 9 téléphones.
Voilà, et ça, c'est effectivement dramatique.
Allez, on va passer à la dénonciation du jour.
Comment réagiriez-vous si vous découvriez de la drogue dans votre voiture après l'avoir prêtée à votre enfant?
La voiture, pas la drogue.
La voiture, effectivement. Cette mésaventure, c'est ce qui est arrivé à cette mère de famille à Marseille. Elle a retrouvé 216 grammes de cannabis dans la voiture quand elle l'a récupérée. Elle a donc décidé d'emmener sa fille de 25 ans au commissariat pour signaler l'incident et remettre la drogue aux autorités. La jeune femme a été convoquée dès le lendemain au tribunal pour une comparution immédiate.
Ça rigole pas, la maman. Ça vous fait réagir comment ça? Tu sais, ça me fait penser évidemment à la scène dont on a tellement parlé lors des émeutes d'il y a un an, où on avait capté cette scène qui avait été captée par des images vidéo d'un papa qui allait choper son fils qui était en train de traîner dans la rue à un endroit où il ne fallait pas, à une heure où il ne fallait pas vu le contexte, et qu'il avait pris Manu Militari pour le ramener chez lui.
Oui, et puis une maman qui avait foutu une claque, je crois, ouais. C'est la même scène. Bon, là, c'est un niveau un petit peu différent, c'est pas juste une incivilité, c'est un délit.
Je ne suis pas consommateur, mais 216 grammes, c'est quand même pas mal.
216 grammes,
c'est beaucoup.
C'est beaucoup.
On rentre, voilà. Donc, non, je trouve que la c'est une maman, c'est ça,
ouais,
ou non?
Ouais.
Elle a héroïquement et intelligemment réagi. Voilà. Il y avait d'autres possibilités de cacher. Voilà. Elle a pris la responsabilité. Et en même temps, pédagogiquement, pour la fille, c'est important. J'espère que la police.
Pédagogiquement,
la
justice, elle a 25 ans.
Oui, mais j'espère qu'ils en tiendront compte. Elle a accepté en même temps d'aller accompagner sa mère. Voilà. C'est un cas de figure assez rare quand même. En général, on vous met des petites pochettes de bicarbonate pour vous compromettre. Vous voyez, les polices secrètes font ça souvent dans les pays. Puis, il a de la drogue. Et dans les pays asiatiques, c'est arrivé souvent.
Aux États-Unis, ça arrive beaucoup.
Aux États-Unis, voilà. Donc là, le mieux, c'est la meilleure réaction, c'est de dire voilà, il y a ça, parce que caché, et si on le sait qu'on a caché, vous pouvez tomber, vous êtes tout de suite complice de la.
Cette jeune fille, elle a 25 ans. Bon, elle est majeure, elle est largement.
Ouais.
Malgré tout, parfois, on parle de l'irresponsabilité d'un certain nombre de parents, de leur responsabilité. Ah là, la maman,
oui.
Pour le coup.
Moi, ce qui m'interroge, c'est comment est-ce qu'elle en est arrivée à faire ça. J'imagine que... Enfin, je ne connais pas les antécédents de cette jeune fille, mais en tout cas, ce que je trouve, malgré le procès en irresponsabilité, en effet, qu'on fait à de nombreux parents...
Qui existe parfois.
Qui existe parfois, mais qui, je pense... Enfin, je ne suis pas maman, mais je pense que ça ne doit pas être facile d'être parent et que devant ce genre de moment... On doit vraiment profondément se poser la question de ce qui est le mieux pour soi, enfin pour l'enfant et pour la société, parce que mine de rien, cette jeune fille, elle ne vit pas dans une bulle, elle vit en collectif. Et en tout cas, ce que je trouve étonnant, là, à une période où je crois une majorité de parents élèvent leur enfant pour leur enfant, sans se poser la question de comment est-ce qu'il va vivre en société et interagir avec d'autres êtres humains, la capacité de cette maman à mettre un cadre. Ça m'interroge que sa fille ait 25 ans. Donc je me pose la question de ce qui s'est passé avant, mais en même temps, je ne veux pas juger, je ne connais pas le truc.
Laurent.
En tout cas, ça m'interroge sur aussi les relations et la manière dont la fille va vivre tout ça.
Oui, parce que là, effectivement, on n'est pas tellement dans le cadre de l'irresponsabilité des parents, mais plutôt de l'irresponsabilité des enfants. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous faites des bêtises, vous essayez
de préserver
à partir d'un certain âge, vous essayez de faire en sorte que ça ne retombe pas sur votre entourage. Et là, effectivement, elle n'en avait pas grand-chose à faire apparemment, mais c'est assez étonnant. Hein.
Le prix du jour.
Le prix d'un billet de TGV qui a augmenté plus fortement que ce qu'avait promis la SNCF, l'autorité de régulation des transports. La SNCF avait annoncé une augmentation moyenne de 5% pour 2023, elle est finalement de 7% d'après l'ART. Un billet SNCF coûtait en moyenne 43 euros l'année dernière. L'autorité de régulation précise que les prix sont en hausse pour l'ensemble des classes tarifaires et des distances parcourues, mais ça a plus augmenté sur les offres low cost, 10% par exemple sur les Ouigo, contre 5% sur les autres services, des chiffres que conteste la SNCF.
On connaît ton engagement, Loumir, pour l'environnement, pour l'écologie.
Et le service public.
Ce genre d'infos, quand on les découvre, on se dit vraiment qu'on marche sur la tête.
Mais on est bien d'accord.
On ne rêverait que, parce que vu le prix que ça coûte de laisser notre voiture au garage quand on le peut, de pouvoir prendre le train, notamment pour partir en vacances. Là, on sait, j'ai plus les chiffres en tête, c'est plus de 7 Français sur 10 vont prendre leur voiture individuelle pour partir en vacances.
Oui, c'était le sujet de la semaine dernière.
On l'a fait la semaine dernière, on en a parlé la semaine dernière, tout simplement parce que la plupart te disent, et vu le contexte actuel, c'est trop cher le train. Tout le monde ne rêve que d'une chose, c'est de pouvoir prendre le train, mais c'est vrai. Mais non mais quand tu peux, si, moi je sais que je le prends tous les jours, c'est quand même super pratique. Si tu as une gare pas trop loin, t'as des transports en commun qui t'amènent jusqu'à la gare, que tu montes dans le train, t'es quand même, je suis désolé, tu sais, c'est pas rigolo de rouler pendant 10 heures au volant de sa voiture, et que tu arrives à destination beaucoup plus rapidement quand même qu'en voiture,
que t'arrives en centre-ville
ou alors que t'arrives et puis que là il y a des transports en commun qui prennent le relais, c'est un monde rêvé. Mais là, quand on voit ce genre d'infos, mais c'est décourageant.
Mais je suis bien d'accord, vous m'avez entendu dire des dizaines de fois sur ce plateau qu'il faut que la mobilité redevienne un service public d'intérêt général et non pas un objectif marchand. C'est aussi parce qu'on oblige la SNCF à faire des profits après une réforme de son fonctionnement que la SNCF augmente ses prix. Et donc il y a un vrai enjeu à traiter la mobilité, surtout la mobilité durable qui ne pollue pas, comme un service public et donc comme l'école et comme l'hôpital qui n'a pas vocation à rapporter de l'argent. Mmh. Et je crois que c'est là le problème, c'est qu'on a deux logiques qui s'affrontent, une logique de rentabilité et une logique de service public. Et donc, bien évidemment qu'on ne va pas réussir à relever le défi immense de la transition écologique qui nous attend sans traiter ce problème de la mobilité et en faire et faire du train un mode d'accès accessible économiquement.
Laurent Péricot, est-ce que il faudrait refaire de la SNCF un vrai service public?
C'est l'objectif de tous les présidents de la SNCF et de tous les gouvernements français. Dans la mesure où
avec les prix qui pratiquent, c'est pas ça.
C'est que le paramètre néolibéral commercial s'est introduit. Je me souviens, à un moment donné, les contrôleurs étaient marqués les agents commerciaux. Et la relation, on n'était plus des usagers, on était des clients. Bon, ils sont revenus sur une terminologie, on est usagers, voyageurs. Mais c'était devenu une entreprise qui vendait des produits. Et donc, elle vous transportait quand même. Ça, c'est pas possible. Alors, il y a une équation économique qu'il faut respecter.
Et écologique.
Écologique, oui.
Non, mais c'est pour ça que je dis ça, parce que en vue de ce qui se passe déjà et ce qu'il va se passer demain, d'un point de vue de notre environnement, est-ce qu'il faudrait pas, c'est un choix politique, c'est un courage politique, c'est un budget énorme, on est d'accord.
Bien sûr, ça coûte
un budget énorme,
très cher de
des milliards et des milliards, parce qu'il faut remettre le réseau en état et tout. Est-ce que justement, il faut pas faire ce choix politique de faire redevenir du train un vrai service public?
Et écologique.
Et écologique en même temps.
Écologique, il faut multiplier par 4 l'industrie nucléaire, l'énergie nucléaire, pour avoir de l'électricité pas chère.
Allez, on va terminer avec la sortie du jour.
Ouais, c'est l'événement cinéma de la semaine, la sortie du conte de Monte Cristo, donc au cinéma avec Pierre Niney dans le rôle d'Edmond Dantès, pour réadapter donc ce classique de la littérature française qui est aussi devenu au fil des années un classique du cinéma. L'histoire écrite par Alexandre Dumas a été adoptée une vingtaine de fois au cinéma, sans compter les séries, les feuilletons qui ont été faits autour de cette histoire. Les premiers films remonte au tout début du XXe siècle. Le dernier long métrage inspiré du conte de Monte Cristo remonte à 2002.
Tu l'as vu ou pas encore?
Oui, je l'ai vu. J'ai trouvé que c'était assez réussi.
Il paraît que moi j'ai lu des critiques. Il paraît que c'est très bien.
C'est très fidèle à l'histoire.
Malgré tout, Laurent, est-ce qu'on manque? Franchement, on peut pas trouver d'autres idées? On est obligé de toujours refaire des classiques comme ça? C'est une question, j'en sais rien.
Non, moi ça me gêne pas. Il faut pas faire que ça. Mais je trouve que on trouve dans ces adaptations là un souffle épique, un côté roman feuilleton qu'on aurait du mal à trouver, qu'on est content de retrouver à l'écran. De manière régulière. Et puis par ailleurs, je suis désolé, mais moi qui suis un grand partisan de la lecture, je pense que c'est aussi un moyen très
pédagogique
de donner envie de lire à des jeunes, parce que forcément
avec Lupin, par exemple.
Voilà, et
c'est un film français, donc s'il cartonne, tant mieux. Il sort aujourd'hui, il faut le dire, c'est particulier, un vendredi.
J'ai pas bien compris pourquoi.
Bah si, parce qu'il a fait du cinéma.
Du cinéma.
Ce lundi, donc pour essayer de booster les entrées. Rapidement, ça vaut le coup, vraiment?
Ouais, ça vaut le coup. C'est un peu trop lisse. Ça manque un peu de personnalité, un peu d'âme. Mais les acteurs sont formidables. Ça manque aussi un peu de dialogue. Ça, c'est le problème. C'est qu'on sait plus faire des films avec des bons dialogues. Hein. Mais on s'ennuie pas une seconde. C'est très fidèle au roman. Ça donne envie de le lire. Donc, je pense que ça vaut le coup.
J'ai jamais vu que des massacres. J'espère, je vais aller voir avec grand intérêt. Je n'ai jamais vu que des massacres de la littérature française.
Voilà. Bah, écoute,
Les Misérables de Robert Hossein avec Lino Venturin qui était à peu près.
Parce qu'il faut encourager, c'est un film français, puis il faut encourager les gens, ceux qui le peuvent, justement, à aller dans nos salles de cinéma, c'est important. C'est la fête du cinéma, c'est lundi, ça dure 4 jours, je crois.
Ouais.
C'est 5€ la place, donc, pourquoi pas le conte de Monte Cristo. 5€ la place, ça vaut le coup.